Bonjour et bienvenue à l'épisode 148 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. NeoChange, impact de l'IA sur l'accompagnement du changement. Si ces mots ne captent pas votre attention, nous sommes bouche bée. Les habitués de ce podcast savent que nous retournons périodiquement questionner certaines personnes, soit pour continuer à explorer leurs pensées, leurs écrits, leurs recherches, ou simplement pour les questionner sur le monde qui change. C'est ce que nous faisons dans les mois qui suivent les journées de la transformation organisées par les chaires ESSEC du changement et de l'innovation managériale dirigées par David Autissier. Les passionnés du changement en organisation pourront d'ailleurs réécouter les épisodes 45 et 104 pour suivre l'évolution du domaine à travers les réponses d'un des plus importants professeurs-chercheurs francophones dans ce domaine. David Autissier est maître de conférences à l'IAE Gustave Eiffel de l'Université de Paris-Est, Créteil, où il enseigne le management, les systèmes d'information et la conduite du changement. Il est aussi intervenant à l'ESSEC, où il dirige la chaire ESSEC du changement et la chaire ESSEC Innovation managériale et excellence opérationnelle. David est auteur, co-auteur ou coordonnateur de plus de 66 ouvrages sur le management et le changement depuis 2006. Ses travaux de recherche traitent des problématiques de changement et de management dans une perspective de recherche-action avec des entreprises, toujours avec l'objectif de partager des réflexions avec le plus grand nombre. Nous vous souhaitons une très bonne entrevue.
Bonjour David.
Bonjour Jean-François.
David, dans ton historique de l'évolution des pratiques des entreprises en matière de changement, tu indiques que les compétences en accompagnement du changement ont été, dans un premier temps, achetées ou louées, puis dans un deuxième temps, déléguées aux managers pour ensuite être internalisées d'une manière plus formelle avec des groupes change qui soient rattachés soit au RH, soit au groupe TI. Où est-ce que les organisations en sont rendus, ou les organisations les plus matures en matière de change management ou d'accompagnement du changement, où est-ce qu'elles en sont rendues dans leur évolution par rapport à ces compétences de change management?
Alors aujourd'hui, la plupart des grands groupes ont internalisé la notion de conduite du changement. Alors quand je dis internalisé, ça veut dire que tout est fait, que toutes les actions de conduite du changement sont réalisées par des acteurs internes. Aujourd'hui, on a un mix entre l'interne et l'externe. Il n'y a pas une société de conseil qui ne revendique pas, dirais-je, une compétence, un positionnement sur le changement et la transformation. Donc aujourd'hui, c'est un mix que l'on a dans les organisations. Toutes se sont essayées un peu au sujet. Alors, avec différentes formes, hein, ça peut être l'évolution des directions, de l'organisation, ça peut être des entités de change indépendantes, qui était parfois au RH, en lien avec la formation, parfois avec la stratégie. On a aussi eu, et aussi aujourd'hui, c'est quand même une évolution que l'on constate, il y a aussi beaucoup de pratiques de conduite du changement interne qui sont dans les entités de consulting interne.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a vu se développer ces dix dernières années ce qu'on appellerait le consulting interne, hein, le in-house consulting, comme on dit en bon français. C'est-à-dire que les organisations se sont constituées des petits groupes qui vont entre 10, 50, voire en général 70, 80, c'est les grands maximums que l'on a en France. Hein.
Oui.
Et ces acteurs ont pris en charge, entre guillemets, ils ne font pas que du change, en général ils font du process, de la performance avec des logiques un peu lean, excellence opérationnelle, mais aussi du change et de l'analyse de performance avec des indicateurs. Donc on voit que toutes les organisations un peu avec des historiques différents. Souvent, on me pose la question, on me dit, si on doit internaliser le change, où devons-nous le mettre? On pose souvent, le modèle idéal? Quel serait le positionnement idéal? Alors, j'ai une réponse, j'ai pas de réponse toute faite sur le sujet. Je renverse la question. Je me dis, où avez-vous la plus grande maturité dans l'organisation en matière de changement? Et où avez-vous le ou les acteurs qui sont les plus en mode leadership sur le sujet? Si c'est des gens à la RH, faut mettre à la RH. Si c'est des gens à l'IT, faut mettre à l'IT. Oui. Je vais être très pragmatique sur le sujet.
Oui.
Alors, c'est une vision un peu française, hein. On aime bien avoir des organigrammes, des cases, etc. Moi, je raisonne par rapport aux individus, par rapport aux historiques.
Oui.
Si vous avez des acteurs qui sont très visibles en chaîne, qui ont une grande expérience, ben, faut le faire là. Aujourd'hui, on voit quand même que globalement, alors, on a toujours cette concurrence un peu, dirais-je, en interne entre le pôle RH, parce que le pôle RH, dirais-je, détient, dirais-je, les prérogatives d'expertise sur la communication et la formation.
Oui.
Et puis, on voit aussi souvent du change qui se fait au niveau de l'IT. Alors, parce que l'IT a une culture process, tout ce qui a été fait dans les logiques ERP, etc. Et puis, il y a beaucoup de gros projets qui sont faits à l'IT aussi.
Oui.
Donc, on voit que voilà, ces acteurs, alors aujourd'hui, le message, c'est toutes s'y sont essayées. Beaucoup d'organisations ont capitalisé avec des entités de consulting interne, des équipes à la RH, des équipes à l'IT, parfois un tout petit peu sur la strat,
oui.
Sur la strat que l'on voit, dans des logiques plus de projet d'entreprise ou dans une logique plus pilotage d'ensemble. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est ces organisations internes, jusqu'où vont-elles ? Et jusqu'où peuvent-elles aller ? Aujourd'hui, pour moi, il y a trois grands blocs, entre guillemets, de prestations de ces entités internes. Il y a un premier bloc de prestations qui est, grosso modo, je vous livre une méthode de conduite du changement et je la diffuse dans l'organisation. On a un référentiel change. On a un référentiel avec un process, des outils, une approche, et on livre ça un peu comme le feraient des profs.
Oui.
Donc des méthodologues, des experts méthodologues, j'appelle ça. Oui. Donc ça, c'est le premier bloc. Et on va aller professionnaliser, on va aider les chefs de projet, on va professionnaliser les managers avec ce référentiel-là. Pour moi, ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est les entités disent « j'ai mon référentiel, mais j'ai des prestations de service ». C'est-à-dire qu'elles vont rendre... Alors, pour moi, dans les prestations de service, il y a la prestation de service qui consiste à dire, à destination des chefs de projet, lorsque vous avez un projet, qu'est-ce que ça veut dire faire du change ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et combien ça va vous coûter ? Moi, je suis chef de projet, je fais toc-toc, je veux un diag express, et je veux savoir mon projet. Déjà, c'est ce que je dis souvent, tous les projets n'ont pas à être accompagnés. Quand il y a des projets faciles, moi, je me souviens, à titre d'exemple, un jour, j'avais fait une fusion entre deux entités et on m'avait demandé d'accompagner l'entité absorbée. Je le dis comme ça.
Ouais.
Et quand j'arrive, on me dit « Mais non, monsieur, on est tellement content d'aller dans l'autre entreprise. » Et ça, alors, moi, ça m'avait surpris.
Ouais.
Mais globalement, j'étais dans une situation où ils voulaient quitter l'entité, voulaient quitter son groupe et plutôt aller dans l'autre groupe qui les rachetait. Enfin, il n'y avait rien à faire, quoi.
Ouais. Ouais.
Quasiment. Donc, je veux dire, il y a des projets qu'il ne faut pas faire du changement quand il n'y en a pas besoin.
Ouais.
Donc, je reviens sur mon deuxième. Donc là, on va faire du diagnostic. Donc, on va prendre les chefs de projet, puis on va leur dire, voilà votre projet, voilà les caractéristiques, voilà ce que vous devez faire et combien ça va vous coûter. Pour moi, ça, c'est le deuxième bloc que moi, j'appelle de l'expertise, dirais-je, de diagnostic. Après, libre aux personnes de faire la conduite du chemin, mais qu'ils veulent. Et troisième niveau, pour moi, c'est non seulement j'ai le référentiel, je sais faire des diagnostics, et je vais accompagner. Alors, je vais accompagner, là, on a plusieurs, dans l'accompagnement, plusieurs notions. Est-ce que j'accompagne simplement un peu en mode, je forme des personnes et je les coach au fur et à mesure du projet, des personnes internes, ou est-ce que je vais chercher des cabinets externes, ou est-ce que je vais faire la conduite du changement ? Alors là, c'est là que les entités internes se retrouvent un peu en limite de bande passante.
Oui.
Et à ta question, hein, parce que j'y viens quand même, aujourd'hui, toutes les entreprises s'y sont essayées. Est-ce qu'elles ont déployé ces trois grands blocs de livrables ? Donc ça, c'est quand même l'élément important. Est-ce qu'elles font du référentiel ? Est-ce qu'elles font du diag ? Est-ce qu'elles font de l'accompagnement ? Et jusqu'où vont-elles dans l'accompagnement ? Et combien de projets vont-elles ? C'est ça la question.
Oui.
Aujourd'hui, la plupart, quand vous avez une équipe, mettons, de 15-20 personnes, c'est très compliqué, dans des grands groupes, de répondre à tous les besoins de changement.
Oui.
Donc, ça, c'est un premier niveau, dirais-je, assez intéressant. Le deuxième, donc ça, aujourd'hui, le premier niveau, le deuxième niveau, on l'a. Le troisième niveau, on l'a, mais jusqu'où et sur combien de projets ? L'autre élément, parce que tu as posé la question de la maturité, donc ça, j'ai une dimension très instrumentale, la gestion du changement.
Ouais.
Je sais que tu as envie de me poser plein de questions. Mais l'autre point, parce qu'on va gagner du temps par la suite, qui est important sur la maturité, c'est est-ce que les entreprises ont un référentiel ? Est-ce qu'elles savent faire des diagnos ? C'est un référentiel avec des personnes formées. Est-ce qu'elles savent faire des diagnos pour définir des stratégies d'un changement ? Est-ce qu'elles accompagnent ? Mais est-ce qu'elles ont aussi un pilotage global de leur capacité à changer ? Est-ce qu'elles ont un pilotage de tous leurs projets ? Moi, je suis assez frappé dans beaucoup d'organisations. On me dit tout le temps, on a de plus en plus de projets, on a beaucoup de projets, vous savez. Et moi, je dis, combien ? Combien en avez-vous ? Ah bah, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Très bien. Combien avez-vous de projets au-dessus de 1 million de dollars ? Ou 1 million d'euros, si tu veux.
Oui.
Donc, un critère comme un autre. Ah bah, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie question. On raisonne beaucoup build and run. Donc, si on dit les projets, c'est le build. Combien avons-nous de projets ? Qu'est-ce que ça représente en termes d'heures, en termes de budget, etc. Donc, je pense qu'on a un besoin dans nos organisations de pilotage. Et la maturité, c'est bien sûr avoir des modalités de déploiement, mais aussi avoir une réflexion sur le changement, tous les projets de changement qu'on a, et la capacité à changer de l'organisation.
Mmh, oui.
Donc, celles qui vont vers ça, pour moi, sont les plus matures aujourd'hui.
Ouais. Et je ne le vois pas toujours clairement dans la littérature du PMI qui a longtemps poussé ses bureaux de projet, dont j'ai déjà parlé sur le podcast, où, pour essayer de donner une vision, comme tu dis, une vision stratégique de l'ensemble des initiatives qui ont cours dans l'organisation à un instant donné, et ensuite pour permettre, comme tu dis, de voir celles de ces initiatives-là qui nécessitent un accompagnement, disons, un peu plus poussé ou un peu plus explicite ou un peu plus complexe en matière de changement. Prochaine question, c'est que tu nous apprends aussi qu'il faut penser le changement et non pas changer le pansement en fonction des cultures locales. Tu as écrit un article dans Forbes France récemment sur ça. Peux-tu nous en dire un petit peu plus et nous en parler un tout petit peu, très brièvement, dans le premier podcast il y a presque 2 ans maintenant. Peux-tu nous en dire un peu plus et comment aborder le changement dans ces différentes cultures-là, surtout quand tu parles de grands groupes qui ont internalisé ces fonctions-là, ces grands groupes-là sont souvent internationaux. Faire du changement en Inde, en Chine, au Proche-Orient, en Amérique du Nord, c'est définitivement pas la même chose.
Effectivement, donc, alors, sur la petite citation, donc, c'était « Penser le changement que changer le pansement », c'était la citation de Francis Blanche, hein, donc, qui mentionne qu'à un moment donné, le changement, ça se pense. Ça se pense, alors il y a des outils en termes d'analyse, de compréhension des résistances, en termes de levier d'accompagnement.
Oui.
Et donc, ça veut dire qu'on peut agir. Donc, ça veut dire, alors après, la martingale est plus difficile à avoir. Souvent, on me pose la question, quels sont les meilleurs outils à mettre en place ? On a des approches, entre guillemets, en disant, il faut plutôt faire ça dans tel contexte. Mais n'oublions jamais qu'en science de gestion, nous sommes dans la contingence.
Mmh.
C'est-à-dire que le contexte est quand même une variable très structurante.
Ouais.
Et il est très difficile de répéter strictement quelque chose qui a été testé dans un contexte et qu'il ait le même résultat dans un autre contexte. Donc, on tient toujours compte de la contingence. Alors, cette notion de contingence, elle est assez intéressante par rapport à la citation, mais elle est assez intéressante par rapport aussi à la notion de culture. Nous, on a mené, donc depuis maintenant, quand même assez longtemps, une bonne dizaine d'années, un travail d'analyse du changement dans les différentes cultures. Alors, je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un podcast en tant que tel.
Ouais.
Et on a regardé, on avait fait un travail avec la Chine, avec l'Inde, avec le monde arabo-musulman. Alors, on a travaillé avec Brahim Demsamani pour le monde arabo-musulman, qui est marocain, ouais, avec Madhoum Maloun, donc, qui est en Inde, mm-hmm. et avec Shi Weiwu, qui est en Chine. Donc, on avait travaillé sur... Et on avait essayé de comprendre un tout petit peu. Et on avait fait cette grille à l'époque, hein, qui était de dire, on a des acceptions, on a des visions du monde, on a des acceptions du changement... On a des méthodes de conduite du changement. Et tout ça fait qu'on a des choses différentes. Je vais essayer de prendre un exemple pour illustrer ça. La notion de résistance au changement.
Oui.
Qui est quand même au cœur de toutes nos démarches.
Oui.
Depuis ce brave Kurt Lewin, on a tout basé sur il y a de la résistance, donc il faut embarquer, donc on accompagne. La notion de résistance, on ne la retrouve pas de la même manière en Chine, en Inde, dans le monde arabo-musulman. Je prends l'exemple dans la culture chinoise, la notion de changement, c'est la nouveauté, et la nouveauté, c'est l'énergie.
Oui.
Bien sûr que ça demande un effort, bien sûr qu'on retrouve des choses quand même, la nature humaine se retrouve parfois sur des dimensions un peu hédonistes, et mesure le rapport entre la contribution et la rétribution.
Oui.
On est tous, quelles que soient nos cultures d'origine, on sait très bien ce que c'est que l'effort et on sait très bien ce que c'est que la récompense qu'il y a par rapport à cela. Mais dans la culture chinoise, alors déjà l'acception du monde, c'est une combinaison sans fin. Et donc du coup, on va toujours chercher quelque chose de nouveau, et quand on cherche quelque chose de nouveau, ça nous donne de l'énergie. Donc la notion, de résistance n'est pas analysée de la même manière. Donc, les leviers qu'on va mobiliser ne seront pas du tout les mêmes. Mmh. Alors, donc du coup, ça pose la question de cette notion, culturelle, ouais. Et ça pose la question des leviers. Sur les leviers, c'est assez intéressant, hein. La culture française, dans la culture française, et je ferai le parallèle avec la culture nord-américaine dans laquelle j'intègre la culture québécoise, oui, et canadienne.
J'espère.
Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire, je dis à mes collègues, mes compatriotes, je veux dire comme ça,
oui,
j'ai des collègues, je dis, les Québécois, c'est des Nord-Américains qui parlent français.
Exact.
Ce ne sont pas des Français qui sont sur le continent nord-américain. Non, mais je le dis parce que des fois...
Je suis content que ce soit toi qui le dise et pas moi.
Voilà, je sais que... Et donc... Pour moi, ça, cette notion est clé, c'est de dire à un moment quels sont les leviers. En France, le levier le plus important quand on fait de la gestion du changement, c'est essentiellement la formation.
Oui.
Les budgets de formation, alors ça s'explique parce qu'on avait des budgets dédiés, ça s'explique parce qu'on fait aussi intervenir les acteurs syndicaux avec les notions de délit d'entrave, mais il y a toujours eu la formation, qui a toujours été le levier un peu clé. Si tu regardes sur le continent nord-américain, les deux leviers clés, c'est communication, leadership. Mmh. On communique, est-ce qu'il y a des leaders qui portent le sujet?
Oui.
Et là, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que si tu es dans un environnement français, il faut plutôt avoir de la formation. Si tu es dans un environnement nord-américain, il faut plutôt être quand même sur ces grands leviers-là. Donc, on a fait ce travail, nous, d'identification des principaux leviers par... Alors, c'est toujours compliqué parce que après, on a travaillé par grandes zones parce qu'on... Après, bien sûr que si je dis dans le monde occidental, c'est quand même quelque chose. Déjà, j'ai déjà démontré qu'il y avait des différences. Et si je prends, par exemple, l'Europe, entre la France et l'Allemagne, on n'est pas tout à fait sur les mêmes registres, et l'Espagne également. Mmh. Mais déjà, de trouver quelques grands blocs. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en gestion du changement, quand on intervient sur, il y a des éléments de diagnostic qui vont être un tout petit peu, diagnostic de communication qui peuvent être à peu près les mêmes, et encore, c'est à mesurer en fonction des types de projets. Mais plus on ira dans le culturel, plus on ira dans le sociologique, plus on ira dans le soft, plus ça devra être, entre guillemets, délégué aux acteurs locaux qui connaissent.
Ouais. Ouais.
Pour moi, ça, c'est indispensable. Et qui vont... Il y a un projet qui est défini globalement. On peut avoir une communication institutionnelle, mais derrière... Par exemple, sur tous les ateliers, la manière dont on anime des ateliers, c'est très lié à la culture. On n'anime pas un atelier de la même manière sur le continent nord-américain qu'en France. Mmh. Hein? Moi, souvent, on me dit, quand j'anime un atelier, on me dit « Ah, vous êtes bien français !» Alors, quand j'aime bien le bien français, donc ouais, ça veut dire ouais, le bien, mais le bien, c'est pour insister, c'est pas pour le qualifier.
Ouais.
Ce qui veut dire que, en tant que français, dans les ateliers, moi, je parle trop et je laisse pas assez parler les gens.
Ouais.
Donc... Mais je le sais. Alors maintenant, j'essaie de me corriger un tout petit peu parce qu'on a la chance d'être dans des environnements internationaux. Donc, au fur et à mesure, et puis avec l'âge et mes cheveux blancs, j'apprends un peu. Mais on va avoir des notions où les Nord-Américains vont plus être dans « je fais parler le groupe, je l'amène à échanger en tant que tel
ouais. ».
Donc, on voit qu'il y a des nuances comme ça. Alors, bien sûr, on a aujourd'hui une forme un peu d'espéranto, moi j'appelle ça comme ça, organisationnel, qui s'est fait... souvent sur des logiques nord-américaines, parce que beaucoup d'écrits sur le management
viennent de là.
Sont nord-américains.
Oui.
Mais globalement, après, il y a quand même une notion culturelle. C'est pour ça que je dis, définition du projet, communication institutionnelle en global, dès qu'on va être sur les ateliers, sur l'animation et sur des notions très sociologiques, là, il faut travailler avec des personnes qui connaissent les cultures, sinon c'est compliqué.
Un autre article où tu affirmais que l'IA générative facilitera ou faciliterait l'organisation du travail collectif. Est-ce que c'est un peu comme la loi sur les 35 heures qui a surtout, du côté positif, servi à relancer le dialogue social dans les entreprises? Je ne ferai pas la liste des côtés négatifs. Ou est-ce que c'est essentiellement autour d'un ensemble de décisions « make or buy » ou encore autre chose, hein, make or buy, je fais ou je fais faire par l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est encore autre chose?
Alors ça c'est intéressant, c'est effectivement un papier qu'on a fait récemment là avec Inigo et Chévez, donc sur cela. Alors, on a fait ce papier à partir d'une très grosse étude qui a été faite par le BCG.
Oui.
Par le think tank du BCG sur l'utilisation de l'IA dans le monde du conseil. Ce que j'ai aimé dans cette étude là, c'est qu'à un moment donné ils ont dit voilà, on prend déjà en termes de méthodologie, ils ont pris ce qu'on appelle des groupes de contrôle. Ils ont dit voilà, on a une mission. Et on prend des consultants, donc ils l'ont fait avec des consultants juniors, ensuite avec des consultants seniors, donc c'est différent. Mmh. Ils ont dit, on prend des consultants, on leur fait faire un travail de proposition d'un plan stratégique avec ChatGPT, et ensuite, ils ont dit, on prend un autre groupe qui travaille sans ChatGPT.
D'accord.
Donc moi, j'aime bien ça déjà dans la démarche, parce qu'aujourd'hui, sur l'IA, vous savez, dans les sujets à la mode, tout le monde raconte un truc. Mmh. Tout le monde a un truc à raconter, etc. Là, ce que j'ai aimé, c'est que déjà, c'était sur plus de 700 personnes. Mmh. Donc, avec déjà des
gros échantillons.
La data avec un échantillon important. Et ils ont pris des groupes avec et sans.
Ouais.
Quand ils font faire donc, sur des sujets qui sont assez bornés en termes de méthodologie.
Ouais.
Grosso modo, les gens avec ChatGPT sont plus performants que ceux sans ChatGPT. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on a une méthodo, par exemple. Là, ils prenaient l'exemple, c'était des méthodos qui étaient proches du design thinking.
Ouais.
Mais grosso modo, étape 1, tu définis ça, étape 2, tu définis ça, étape 3, tu définis ça. Enfin, le monde du conseil connaît ça depuis longtemps. Où ça, ça a été processé, mis en livrable depuis longtemps avec des méthodos qui font sens. Donc là, par contre, dès qu'on est sur des sujets qui demandent, dirais-je, où il n'y a pas de la méthode préétablie. Il faut inventer la méthode.
Ouais.
Donc là, il prenait des exemples, il faut trouver des nouveaux marchés, etc. Donc, on est beaucoup plus que je qualifierais en exploration.
Oui.
Et là, ils se sont rendus compte que, alors après, je ne reviens pas parce que l'étude est quand même. Ils se sont rendus compte que là, c'était. ChatGPT était moins convaincant, enfin, l'IA était moins convaincante dans les résultats parce que on pouvait avoir des erreurs. Parce que les ChatGPT, comme ça prend de la data, ça moyennise, entre guillemets.
Oui.
Et en fonction du prompt, enfin, etc. Et là, globalement, de dire, ça peut, quand on est sur des sujets d'exploration, ça peut nous, l'IA peut nous amener à de graves erreurs.
Oui.
Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de graves erreurs? C'est la capacité des personnes à échanger entre elles sur un vieux concept qu'on connaît, qui s'appelle la problématisation, quand on est chercheur, on connaît ça, quelle est la question, qu'est-ce qui est important, et ça nécessite un dialogue collectif entre différentes parties, etc. Donc, dès qu'on est sur des sujets d'exploration qui nécessitent une problématisation plus fine, avec plus d'expérience, etc., ce qui nous a amené à dire, peut-être que finalement, ces outils-là vont nous obliger à plus travailler ensemble, être plus collaboratifs, plus collectifs. D'ailleurs, l'article était avec un point d'interrogation,
il y a une
affirmation sur cela. Mais on a voulu prendre cette grosse étude-là pour essayer déjà de dire, un, si vous voulez faire utiliser l'IA, réfléchissez déjà en termes de groupe de contrôle, avec et sans IA, ce que ça donne.
Ouais.
Et ensuite, alors après, il y a d'autres variables sur des juniors et des seniors. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça valorise aussi un peu plus les seniors. C'est-à-dire que dans les logiques exploratoires, l'expérience joue un rôle quand même clé.
Oui.
Donc ça m'a fait du bien, parce que moi qui commence à basculer de plus en plus vers le côté des seniors, donc du coup, je me suis dit, bon, tout n'est pas perdu. parce que souvent, on me dit, vous savez, avec l'IA, maintenant, ce ne sera plus la peine de faire des articles, ça va se faire tout seul.
Oui.
Bon, OK. Effectivement, moi, je vois beaucoup de productions, j'ai la chance d'avoir des étudiants. Donc, eux, ils maîtrisent extrêmement bien ces outils-là.
Oui.
On voit des productions, après, la notion de problématisation, d'apport, est à discuter. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que l'IA aujourd'hui, dans les objets de changement, on n'en a pas 15 000, les objets de changement. On change de strat, on change d'organe, on change de management, on change d'outil. Donc, l'IA aujourd'hui, du fait de la maturité technique, on sent que ça va être une variable clé et il faut l'intégrer en tant que tel. Donc, c'est pour ça que nous, on se pose ces questions et on a lancé dans le cadre de la chaire ESSEC du changement le programme Change Tech qui vise, entre guillemets, à identifier des outils pour la production de la gestion du changement Alors, bien sûr, on est sur l'IA, on teste des choses avec des entreprises comme WalkMe sur l'automatisation de la formation,
oui.
Des choses avec Amplify sur l'automatisation de la communication. Donc, voilà.
Ma dernière question avant de parler de NeoChange, saturation du changement, mythe ou réalité, point d'interrogation. On veut entendre la réponse de ta bouche. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est un peu comme l'inflation, hein? On a l'impression qu'il y en a beaucoup alors qu'elle est en train de refluer. On a l'impression qu'il n'y en a pas, il y en a de plus en plus. Cette impression de devoir changer de plus en plus ou comme cadre ou comme dirigeant, de devoir impulser différents changements ou de plus en plus de changements d'une manière simultanée, vrai ou faux?
Alors, c'est des choses qu'on regarde depuis maintenant une quinzaine d'années. Hein.
Oui.
Alors, on avait vu, nous, une grande bascule à un moment donné, avec, puis pas que nos études, beaucoup d'autres études l'avaient démontré. Grosso modo, on était passé de 1 à 3 projets de changement par an, par mois.
Oui.
Liés, je veux dire, allez, beaucoup au digital, beaucoup... Alors, pas qu'au digital, aussi à des notions qui étaient liées aussi à l'accélération des marchés, au phénomène de crise, etc. Donc. Puis on avait vu une sorte de plateau. Et en même temps, on avait cette sorte de plateau et on se disait, mais il y a un retour des personnes qui nous disent on en a de plus en plus. Mmh. On a regardé, alors, c'est pas une étude, on avait interrogé les partenaires de la chaire ESSEC du changement.
Oui.
Donc, c'est 12 entreprises. Donc, faut aussi tenir compte de notre
échantillon. De l'échantillon, oui.
Mais globalement, on s'est rendu compte que sur les managers de proximité, on était resté à 3 changements par an.
Oui.
Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que sur les managers de managers, on est passé à 5 changements par an.
Ouch. Ah oui, d'accord.
Donc, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça ne se fait pas sur le dernier niveau, ça se fait sur un niveau intermédiaire.
Ouais.
Donc, entre mythe ou réalité, je veux dire qu'aujourd'hui, on a une réalité de l'accélération du nombre de projets de changement.
Ouais.
Après, la question, la saturation, ça veut dire que c'est un rapport entre un nombre de changements et une capacité de changement. Il y a saturation quand le nombre de projets est au-dessus de la capacité.
Ouais.
Et aujourd'hui, la notion capacitaire, de dire est-ce que finalement 5, c'est beaucoup, pas beaucoup ? Est-ce que dans un monde où on se dit on est en changement permanent, on doit développer, c'est beaucoup, pas beaucoup ? C'est une vraie question. Mmh. Et derrière ça, la perception de saturation vient aussi du fait que, et moi je milite pour des organisations build and run. Donc des organisations où il y a des temps de projet, des temps de production récurrente. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas dire on a un changement et on va l'intégrer dans le run en permanence. Et là, on voit que les managers de managers, parce que les managers de managers passent beaucoup de temps dans les projets de changement, et plus ils passent dans les projets de changement, moins ils passent du temps avec leur équipe.
Ouais. Ouais.
Donc là, sur ces acteurs-là, on a, je pense, un effet de saturation. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'il est homogène de la même manière sur tous les acteurs de l'entreprise,
ouais.
Mais cette question-là mérite d'être posée à la fois dans la volumétrie et à la fois dans l'organisation que l'on va se donner pour traiter cela. Après, on peut très bien dire à un moment donné, je décide de diminuer le nombre de projets de changement. Ça peut être... Mais aujourd'hui, quel dirigeant va dire je ne change pas et j'attends que ça se passe ? Je ne sens
non.
pas.
Non,
je ne sens pas trop. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est alors, on augmente la capacité individuelle, la capacité collective. Ça reprend la première question. Est-ce qu'on a des entités internes? Est-ce qu'on a des choses pour aller plus vite? Aujourd'hui, nous, on met beaucoup en place ce qu'on appelle les diagnostics express. En 3 heures, on a fait un diagnostic de projet en termes de changement.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, on se dit, on ne va pas mettre 10 jours ou 15 jours, un mois pour faire ça. En 15 jours, en 3 heures, on a déjà un semblant. Donc, je pense qu'on a un travail méthodologique. On a un travail de compétences. Et on va augmenter la capacité. Alors après, c'est un équilibre entre les deux, entre la capacité et l'exigence de changement.
Mmh. Ouais.
Donc, moi, je ne sais pas agir sur le monde, dirais-je, en termes de crise.
Ouais.
Par contre, je sais augmenter un tout petit peu la capacité.
Oui. Ouais. Très bien. Très intéressant, ça. Je vais commencer à réfléchir à des nouvelles questions sur savoir qu'est-ce qui cause que ce middle management se fait changer un petit peu plus que les autres éléments? Finalement, ma dernière question tourne... mes dernières questions,
j'ai quelques éléments de réponse, mais je pense que tu veux... Je ne vais pas t'embêter dans ton déroulé.
Non seulement ça, mais je ne veux pas qu'on fasse trop longtemps, puis on se garde quelque chose pour l'an prochain, bien sûr.
Oui, c'est un tel plaisir de venir te voir et de rencontrer tous tes auditeurs. Donc.
David, tu vas publier en mars prochain un livre sur le Neo-Change.
Oui.
Tu nous parles avec éloquence et grande sagacité de changement. Tu nous as parlé de transformation, l'année passée même de mutation. Qu'est-ce que c'est que le Neo-Change? Est-ce qu'il faut... C'est encore quelque chose que je dois maîtriser ou c'est encore quelque chose de différent?
Non, alors c'est en lien avec le film Matrix et Neo. Non, je plaisante. C'est... On va plugger comme ça, tu sais, dans Matrix, on va plugger compétences change comme ça.
Ouais, on, off.
C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, nous, on s'est posé la question, on parlait de la tech tout à l'heure, et il y a une question qui se pose, c'est de se dire, moi, j'ai travaillé sur des incubateurs de start-up, et une des remarques, c'est qu'on dans les start-up, il n'y a pas de change comme on l'a dans les grands groupes installés. Il y a un tout petit nombre, c'est une logique entrepreneuriale, c'est intéressant.
Ouais.
Et ça m'a amené, mais c'est des réflexions qu'on a quand même dans l'OD, Organizational Development, depuis longtemps. Toutes nos techniques change que j'ai évoquées précédemment, dont tu as fait mention et qui sont rentrées dans le cadre de l'internalisation, sont basées sur le fait qu'on accompagne un projet.
Ouais.
Un groupe de projets.
Un sous-ensemble, oui.
Etc. La question, c'est, et on sait très bien que des fois, il y a des résultats qui ne sont pas toujours au rendez-vous.
Mm-hmm.
Kotter l'a dit il y a longtemps.
Peters aussi, tout le monde le... Oui.
Un certain nombre. Donc, la question qu'on a voulu poser dans NeoChange, c'est est-ce qu'on accompagne les projets ou est-ce qu'on met les organisations en dynamique de telle manière que la dynamique soit tellement forte comme l'est une logique entrepreneuriale dans une start-up qui fasse qu'on n'a pas besoin d'accompagner les projets.
Mm-hmm.
On parle de changement diffus, on parle de choses comme ça. C'est-à-dire, finalement, quand on fait de l'accompagnement de changement, qu'est-ce qu'on fait? On fait du diag, on fait de l'analyse de résistance, on fait d'impact, des plans de com, des plans de formation, des ateliers, tout ça. On mesure tout ça. Et on se dit, on remet quand même une surcouche, dirais-je, dans les organisations. C'est du temps, c'est de la production, etc.
Mmh.
C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de prendre un service, un département, une entreprise et de créer, entre guillemets, une dynamique forte? Une dynamique identitaire, une dynamique d'interaction, une dynamique d'expérimentation. J'ai bien pris ces trois termes-là.
Oui.
Parce que dans le Neo-Change, donc on s'est déjà posé cette question-là, nous. Et on s'est dit comment. Et là-dessus, on a expérimenté quand même des choses sur des organisations. J'ai dit une notion sur une dynamique identitaire. J'ai eu l'occasion de travailler, et là, la réponse à cela, sur la forme de changement narratif. J'ai eu le cas d'une entreprise pharmaceutique pour laquelle j'ai eu la chance de travailler.
Oui.
Et c'était un gros laboratoire pharmaceutique, mais en business family, donc où la famille détient le laboratoire.
Oui.
Et en fait, ils avaient commencé une démarche stratégique, mais qui était assez classique. Et moi, je leur ai dit, je ne la sens pas, votre démarche stratégique là-dessus. Votre entreprise, c'est votre famille, c'est votre identité. Et on a fait un film. Mais quand je dis un film, c'est pas un film avec les trois valeurs qui sont le courage, l'exemplarité, tout ce qu'on peut trouver qui n'impacte pas.
Oui.
Un film sur l'histoire, sur la vie de la boîte.
Oui.
Et on a projeté ce film à tous les employés de l'entreprise.
Mmh.
Mais on disait la vraie vie de la boîte. Hein. On n'était pas en train de tricher.
Oui.
Avec des gens qui étaient là, des gens qui étaient partis, des gens, des anciens, des nouveaux, des jeunes, etc. On a voulu que les gens parlent vrai. Un film de 45 minutes, alors c'est intéressant, parce que quand on a présenté ça, alors ça a été fait qu'à des vrais réalisateurs, parce que c'est quasiment du docu-fiction.
Oui.
Là, tout le monde a regardé le film, alors tout le monde a dit, mais personne ne regarde 45 minutes un film. On a dit, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Donc on a emmené les gens dans des salles de cinéma.
Oui.
On leur a montré le film, et ensuite on a travaillé sur la stratégie. Et c'était pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que les ateliers qu'on aurait mis à motiver, à mettre tout le monde en situation, seraient pris. Là, tout le monde vivait en disant « j'ai besoin de retrouver, entre guillemets, l'identité ». C'est pour ça que je dis une dynamique identitaire.
Ouais.
Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous dans ce collectif? Qu'allons-nous faire? Donc, ça veut dire que le Neo-Change, et on parle de changement à l'échelle, c'est-à-dire de dire « on va travailler sur l'identité par du narratif ». Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une dynamique d'interaction. On a développé avec un des partenaires de la chaire, Veolia, un dispositif qu'on appelle les attentes réciproques. Les attentes réciproques, ça veut dire que on va interroger les différents niveaux hiérarchiques sur ce qui est fait, ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'on prend un CEO, on va interroger les membres du COMEX, et on va interroger le CEO sur que fais-tu pour, et les membres du COMEX, qu'attends-tu d'eux ? Et pour ça, à tous les niveaux de l'organisation. Tout ça n'est que le prétexte à dire ce qui est fait, attendu,
oui.
À dire ce qui est fait, pas attendu,
oui.
Et ce qui est attendu, pas fait.
Oui.
De telle manière qu'on puisse, avoir un dialogue managérial à tous les niveaux de l'organisation,
oui.
Et aussi avoir une analyse globale sur quelles sont les interactions vertueuses, pour faire simple.
Oui.
Toute cette approche-là, c'est pour moi une dynamique d'interaction. Dernier élément, une dynamique d'expérience, ce que j'appelle le bac à sable. On connaît ça depuis longtemps. On change, enfin moi j'ai dit tout le temps, on change de comportement quand on vit une expérience et quand on fait le récit de son expérience. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quels sont tous les bacs à sable, tous les lieux d'expérimentation qu'on se donne dans l'organisation.
Ouais.
Dynamique identitaire, dynamique d'interaction, dynamique d'expérience. Et ça, ça constitue pour nous, entre guillemets, une démarche qui va développer la dynamique globale d'un collectif et qui va lui donner une forte capacité à changer parce qu'elle s'inscrit dans une boucle où on a envie de conquérir le monde, on a envie de s'inscrire dans une forte dynamique, etc. Et c'est ça, NeoChange. Alors, c'est pas, on met pas à la poubelle tout ce qu'on a déjà vu précédemment. On continuera à intervenir sur des projets, accompagner des projets.
Ouais.
Mais on se dit, essayons d'aller vers ces dynamiques-là. Donc, c'est ça, NeoChange.
Ma dernière question pour toi, le temps file. Eric et moi, on aime beaucoup parler d'innovation sur ce podcast. Quelles sont tes dernières... Qu'est-ce qui t'a marqué dans les 12 derniers mois en matière d'innovation managériale à travers ton activité sur soit la chaire du changement, la chaire de l'innovation managériale et de l'excellence opérationnelle, ou dans ton activité de formateur ou de consultant? La chose qui t'a le plus marqué en matière d'innovation managériale dans les 12 derniers mois?
Aujourd'hui, il y a quelque chose qui émerge de plus en plus. Je vais reboucler avec la première question. Moi, j'ai beaucoup d'organisations aujourd'hui qui m'interrogent sur ce qu'ils appellent du change factory, du change office.
Oui.
Donc, parce qu'on veut avoir des dispositifs, des ressources qui vont permettre de déployer le changement de manière rapide et avec un fort impact.
Oui.
Donc, il y a un de ces objets donc, qui se font. Donc, un de nos partenaires de la chaire, Naval Group, travaille à la réalisation du change factory.
Oui.
Mais il y en a beaucoup d'autres qui le font. C'est pas ça. Alors, on va dire, c'est une question de nom entre un département gestion du changement et Change Factory, c'est-à-dire que vous angliciser.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas que ça. Il y a une volonté de démultiplication beaucoup plus forte et avec des outils.
Ouais.
Donc, il y a quand même cette volonté, de démultiplication forte sur l'ensemble de l'organisation pour travailler la capacité à changer. Donc, ça, pour moi, c'est un peu un changement de parce que les entreprises disent, c'est pas simplement d'avoir une ou deux personnes, c'est d'avoir des dispositifs qui vont toucher un maximum.
Ouais.
Et par rapport à cela, tu me disais des choses. Les attentes réciproques, on les a mis en place avec Veolia, on avait fait un peu de recherche.
Ouais.
Mais on est allé jusqu'à créer une application digitale.
Waouh.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire ça sur 10 000 personnes si on veut dans une entreprise et ça nous sort les rapports automatiques.
Waouh.
Donc pour moi, ça, c'est un élément clé. C'est ces outils qui vont nous permettre d'aller très vite, très rapidement. Attente réciproque. On a développé dans le cadre de la chaire aussi un jeu vidéo sur la gestion du changement. On veut former 1 000, 2 000 managers. Alors bien sûr, je sais, il y a des MOOC. J'en ai fait. Mais aujourd'hui, un MOOC, c'est Tender, etc. On a fait un jeu vidéo. Et en même temps, ce jeu vidéo, ce qui s'appelle Change Game, permet... Puis une sorte d'émulation, c'est-à-dire qu'on va, on va dire on le fait dans l'entreprise, et puis tiens, ceux qui l'ont... Il y a un nombre de points, il y a des étapes, il y a des choses comme ça. En faisant ce jeu vidéo que j'ai fait avec la Ludus Academy, qui est une école de jeux vidéo, donc j'ai regagné quelques points, dirais-je, de lien avec mes enfants, parce que d'un seul coup, papa fait un jeu vidéo, donc
ouais,
il est cool. Je retrouve une importance sociale au sein de ma famille, donc ça m'a fait du bien.
Ouais.
Non, je plaisante. Ce jeu vidéo permet d'acculturer très rapidement. Donc, change game, attente réciproque, alors... On a appelé ça Between Us, donc on a encore pris un mot anglais donc sur.
Ouais, pourquoi pas.
Sur cela, pour moi, c'est des choses qui sont. Je reste un peu encore dans la tech, dans la tech, avec cette notion aussi d'outils qui. Je parlais de WalkMe. Amplify, qui est un outil qui est à l'origine utilisé pour la publicité. Mmh. Aujourd'hui, ce sont des outils qui envoient des messages sur les réseaux sociaux externes ou internes dans une entreprise.
Oui.
Et qui vont regarder comment c'est lu, les commentaires, etc. et qui modifient le contenu des messages.
Mmh.
Avec de l'IA.
Oui.
Donc aujourd'hui, on va avoir ça. Et ma conclusion, hein, c'est, et c'est un peu aussi dans le néo-change, hein, c'est-à-dire qu'on va, mais on connaît ça en gestion du changement, il va falloir, comme on a des changements qui vont être importants d'un point de vue culturel, aller chercher des points de bascule, des seuils, et là, on est obligé d'impacter beaucoup plus massivement. Donc ça, je pense que c'est un peu ce vers où l'on va, entre guillemets, par rapport à ça. Et effectivement, Change Factory, Change Game, attente réciproque, sont pour moi aujourd'hui des éléments, et les outils que j'ai mentionnés, qui peuvent être considérés comme des objets, des innovations un peu nouvelles dans tout cet environnement, la conduite du changement.
Ouais, attente réciproque, moi je trouve ça passionnant parce que ça permet de faire ressortir tout de suite ces différences entre le travail prescrit, le travail réalisé.
Exactement.
Et interniveau, je trouve que c'est extrêmement puissant.
Surtout, et je termine sur ça, quand nous on l'a testé à l'origine, hein, parce que c'était des travaux de recherche, hein. Alors c'est assez intéressant et ça fait le lien un peu... parce que c'était sur les travaux de recherche sur l'analyse multiniveau avec Kevin Johnson d'HEC Montréal. Ça fait un lien encore plus fort avec le Québec, que j'adore, hein, tu sais, tu connais la passion que j'ai pour
le Québec. Oui.
Et par rapport à ça, quand nous on l'a mis en place, on l'avait testé comme ça un peu de manière expérimentale, mais quand on a eu l'outil, non seulement, tu l'as dit, travail réel, travail prescrit, extraordinaire,
ouais.
On s'est rendu compte qu'il y a des niveaux. On avait, quand on a une analyse globale sur 2000 managers, sur quel, parce qu'on a défini 21 items dans l'application, alors qui ne sont pas toujours, mais on se rend compte que finalement, la stratégie, ça occupe que 3 niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, par les autres. Donc, c'est une analyse globale de quels sont les objets de gestion que les gens manipulent et sur lesquels ils s'entendent, qui est assez extraordinaire. Donc, on a une analyse locale entre binômes, entre équipes, entre membres d'une équipe, mais une analyse globale qui est très intéressante. Okay. Et aujourd'hui, avec l'application, on commence à avoir un peu de data et on commence à dire, bah, dans tel secteur, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Donc, il y a même un modèle, entre guillemets, dirais-je, sur des configurations organisationnelles liées à ça.
Extraordinaire. David, c'est toujours passionnant de t'écouter et surtout de penser à des questions à te poser. Je te remercie et à très, très bientôt sur ce podcast.
Merci beaucoup à toi et au plaisir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Il est toujours intéressant de faire le tour des dernières innovations en matière d'accompagnement du changement en sa compagnie. Que ce soit pour comparer là où votre organisation se situe en matière de développement de ce type de compétences, ou encore pour explorer les influences de la révolution numérique sur ces questions très humaines, David Autissier ne laisse rien échapper à son regard. Et que dire d'un jeu vidéo sur le changement? Personne ne l'avait vu venir, celle-là. En attendant, on peut commencer par travailler les attentes réciproques qui vont permettre, à minima, d'améliorer la pensée transverse de vos organisations. Je vous invite à consulter les liens de l'épisode dans la description pour accéder aux notes et vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Nous y partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et vous permettre de développer la croissance profitable de votre organisation. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.